Bonsoir à tous, c'est au tour de notre émission Les yeux ont des oreilles, émission de lecture à voix haute. Pour rester dans le thème de ce direct, nous allons vous parler de désir avec Maë, Alice et Martin. Et nous commençons tout de suite avec Martin.
Le seul amour qui soit vraiment humain, c'est un amour imaginaire. C'est celui après lequel on court sa vie durant, qui trouve généralement son origine dans l'être aimé, mais qui n'en aura bientôt plus ni la taille, ni la forme palpable, ni la voix, pour devenir une véritable création, une image sans réalité. Alors il ne faut surtout pas essayer de faire coïncider cette image avec l'être qui lui a donné naissance, qui lui n'est qu'un pauvre homme ou une pauvre femme, qui a fort à faire avec son inconscient. C'est avec cet amour-là qu'il faut se gratifier, avec ce que l'on croit être et ce qui n'est pas, avec le désir et non la connaissance. Recréer le monde des dieux, de la poésie et de l'art, et ne jamais utiliser la clé du placard où Barbe Bleue enfermait les cadavres de ses femmes. Car dans la prairie qui verdoie et sur la route qui poudroie, on ne verra jamais rien venir. Vinciane va maintenant nous lire « Comme une grande fleur », un poème d'Albert Samain, le poète d'automne et de crépuscule. « Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme », écrit Samain, et particulièrement dans ce poème où la menthe est une fleur précieuse et fragile.
Comme une grande fleur, trop lourde qui défaille, parfois, tout en mes bras, tu renverses ta taille, et plonges dans mes yeux, tes beaux yeux verts ardents, avec un long sourire où miroitent tes dents. Je t'enlace, j'ai comme un peu de l'âpre joie, du faux frémissant et fier qui tient sa proie. Tu souris, je te tiens pâle et l'âme perdue, de se sentir au bord du bonheur suspendu. Et toujours, le désir pareil au cœur me mord, de t'emporter ainsi, vivante, dans la mort. Inclinée sur tes yeux, où palpite une flamme, je descends, on dirait, dans ton âme. De ta robe entr'ouverte aux larges plis flottants, où des éclairs de peau reluisent par instants, un arôme charnel où le désir s'allume, monte à longs flots vers moi comme un parfum qui fume. Et, lentement, les yeux clos, pour mieux m'en griser, je cueille sur tes dents la fleur de ton baiser.
Hope so. Me too.
Alice va à présent nous proposer un extrait des Belles Endormies de l'auteur japonais Yasunari Kawabata. Dans ce roman, un vieil homme, Eguchi, s'offre les services d'une maison close un peu particulière, où les clients ne sont que des vieillards et les jeunes prostituées endormies des vierges. On y découvre un vieillard que le désir et la vie quittent peu à peu, et qui, petit à petit, accepte sa propre déliquescence.
La pointe des cheveux de la fille émettait un fluide électrique qui se communiquait aux doigts du vieillard. L'odeur des cheveux se faisait plus insistante. Dans la touffeur de la couverture électrique, l'odeur de la fille se faisait plus insistante de même. Tout en jouant avec les cheveux, Eguchi admirait leur implantation et surtout la belle ligne nette qu'il dessinait sur la longue nuque. La fille avait les cheveux coupés courts par derrière et soigneusement relevés vers le haut. Sur le front, ils retombaient naturellement, longs par endroits, courts ailleurs. Le vieillard dégagea le front et contempla les sourcils et les cils. Des doigts d'une main, il fouilla les cheveux si profondément qu'il toucha le cuir chevelu. « Elle n'est toujours pas réveillée, » dit le vieil Eguchi, et saisissant la tête de la fille à pleine main, il la secoua. La fille alors remua les sourcils comme sous l'effet de la douleur, et elle se retourna à moitié pour se coucher sur le ventre. De ce fait, son corps se rapprochait encore de celui du vieillard. Elle sortit les deux bras, posa le droit sur l'appui-tête et sur le dos de la main appuya sa joue droite. Dans cette position, Eguchi n'en pouvait apercevoir que les doigts. Ils étaient légèrement écartés, de sorte que le petit doigt se trouvait sous le sourcil et que l'index pointait dessous les lèvres. Le pouce était caché sous le menton. Le rouge des lèvres, un peu tourné vers le bas, formait avec le rouge des quatre ongles longs une tache unique sur la tête blanche de l'appui-tête. Le bras gauche était plié au coude, et le dos de la main était presque sous les yeux d'Eguchi. Comparé à la ronde plénitude de la joue, les doigts étaient relativement longs et minces, et faisaient penser à des jambes pareillement fuselées. De la plante du pied, le vieillard chercha les jambes de la fille. Les doigts de la main gauche étaient eux aussi légèrement écartés et reposaient détendus. Sur le dos de cette main, le vieil Eguchi posa sa joue. Sous le poids, le bras bougea jusqu'à l'épaule, mais il n'avait pas la force de retirer la main. Le vieillard resta un moment ainsi, immobile. En sortant les deux bras, la fille avait un peu remonté les épaules, de sorte qu'à l'attache du bras s'était formé un renflement d'une rondeur toute juvénile. Eguchi, tout en tirant la couverture sur l'épaule de sa paume, recouvrit doucement ce renflement. Ses lèvres remontèrent du dos de la main vers le bras. L'odeur de l'épaule, l'odeur de la nuque l'attirait. L'épaule de la fille et tout son dos s'étaient contractés pour se détendre aussitôt, et la peau adhéra à la main du vieillard. Le moment était venu pour Eguchi de venger sur cette esclave endormie les vieillards qui venaient là s'exposer aux insultes et aux mépris. Il allait enfreindre les interdits de cette maison. Il se rendait compte qu'après cela, il n'y pourrait plus jamais remettre les pieds. Dans l'espoir avant tout de réveiller la fille, il la traita brutalement. Toutefois, il fut aussitôt arrêté par le signe évident de sa virginité. « Ah ! » s'écria-t-il, et il s'écarta. Sa respiration était irrégulière et son cœur battait fort. C'était là, semblait-il, l'effet de sa stupéfaction plutôt que de son brusque abandon. Le vieillard ferma les yeux et se contraignit au calme. Se calmer ne lui était pas aussi difficile que ce l'eût été pour un homme jeune. Tout en caressant furtivement les cheveux de la fille, il rouvrit les yeux. Elle était toujours dans la même position, couchée sur le ventre. Une prostituée de cet âge encore vierge, qu'était-ce à dire ? Et pourtant, c'était bien une prostituée. Il avait beau essayer de s'en persuader, la tempête passée, le sentiment du vieillard pour la fille et le sentiment qu'il éprouvait pour lui-même s'étaient transformés, l'empêchant de revenir en arrière. Il ne regrettait rien. Quoi qu'il eût fait à une femme endormie et inconsciente, cela n'avait aucune importance. Cependant, que pouvait bien signifier la stupéfaction qui subitement l'avait envahie ? Égaré par la beauté provocante de la fille, Eguchi s'était laissé entraîner à un comportement irresponsable, mais cela l'amenait à se demander si les vieux clients de cette maison n'y apportaient pas infiniment plus qu'ils ne l'avaient soupçonné, leur misérable joie, leur appétit puissant, leur tristesse profonde. À supposer même que ce fût un jeune insouciant de la vieillesse, un retour à un bon compte à la jeunesse, tout au fond sans doute s'y trouvait caché quelque chose que nul regret ne pouvait faire revivre, que nul effort ne pouvait guérir. Qu'une fille aussi provocante que celle-ci, toute entraînée qu'elle était, pût être restée vierge, était de toute évidence le signe non point du respect des vieillards ni de leur souci de tenir leurs engagements, mais plutôt de leur effroyable décrépitude. La virginité de la fille, par contraste, démontrait l'horreur de la vieillesse. Thank you.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Après ça, c'est Maë qui va nous lire un poème qui a quand même été choisi par Eva, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous, mais on l'aime très fort. Alors ce poème, c'est La nonne gitane de Federico Garcia Lorca, extrait du romancero gitano, traduit ici par Armand Guibert. Derrière ce qui pourrait d'abord passer pour un tableau de genre champêtre, apparaît peu à peu un cortège de sons et d'odeurs sensuelles et une étonnante phallicisation du paysage, traduisant la force de la rêverie érotique de la nonne et dénonçant peut-être le refoulement des pulsions sexuelles induites par la religion.
La nonne gitane. Silence de chaux et de myrte. Mauve dans les herbes fines, sous une toile jaune paille, la nonne brode des giroflées. Volant dans le lustre gris, les sept oiseaux du prisme. Tel un ours pense en avant, loin de là grogne l'église. Comme elle brode, quelle grâce! Sur la toile jaune paille, elle aimerait bien broder des fleurs à sa fantaisie. Quel tournesol, quelle magnolia de faveur et de clinquant! Quel safran et quelle lune sur la nappe de l'autel! Cinq oranges en compote, cuisent dans l'office proche, ce sont les plaies du Christ cueillies par Père d'Almeria. Dans le regard de la nonne galopent deux cavaliers. Une rumeur derrière, et sourde, lui décolle de la chemise. La vue des monts et des nuées, dans les lointaines arides, fait qu'alors son cœur se brise, son cœur de sucre et de verveine. Oh, quelle plaine escarpée, sous l'éclat de vingt soleils! Quelle rivière soulevée entrevoit sa fantaisie! mais à ses fleurs elle s'applique, tandis que debout dans la brise et l'éclat du jour joue aux échecs par les fentes de la jalousie. À présent, Martin va nous lire un texte. Le désir peut prendre de multiples formes et quand l'homme est bizarre, le désir est étrange. Martin va maintenant nous lire un extrait du Parfum de Patrick Süskind.
Süskind.
Livre où le désir est odeur et où de l'odeur naît le désir.
Une jeune fille était assise à cette table et préparait des mirabelles. Elle les puisait dans un panier à sa gauche, les équetait et les dénoyautait au couteau, puis les laissait tomber dans un seau. Elle pouvait avoir 13 ou 14 ans. Grenouille s'immobilisa. Il sut aussitôt quelle était la source de ce parfum, qu'il avait senti à une demi-lieue, depuis l'autre rive du fleuve. Ce n'était pas cette arrière-cour miteuse, ni les mirabelles. Cette source était la jeune fille. L'espace d'un moment, il fut si désorienté qu'il pensa effectivement n'avoir jamais vu de sa vie quelque chose d'aussi beau que cette jeune fille. Pourtant, il ne voyait que sa silhouette à contre-jour. Ce qu'il voulait dire, naturellement, c'est que jamais il n'avait senti quelque chose d'aussi beau. Mais comme malgré tout il connaissait des odeurs humaines, des milliers et des milliers, des odeurs d'hommes et de femmes, d'enfants, il ne parvenait pas à comprendre qu'un parfum aussi exquis pût émaner d'un être humain. Habituellement, les êtres humains avaient une odeur insignifiante ou détestable. Les enfants sentaient fade, les hommes sentaient l'urine, la sueur aigre et le fromage, et les femmes la graisse rance et le poisson pas frais. Parfaitement inintéressante et répugnante, l'odeur des êtres humains. Et c'était ainsi que, pour la première fois de sa vie, Grenouille n'en croyait pas son nez et devait requérir à l'aide de ses yeux pour croire ce qu'il sentait. À vrai dire, cet égarement des sens ne dura pas longtemps. Il ne lui fallut en fait qu'un instant pour vérifier, et cela fait, s'abandonner plus impétueusement encore aux perceptions de son odorat. Maintenant, il sentait qu'elle était un être humain. Il sentait la sueur de ses aisselles, le gras de ses cheveux, l'odeur de poisson de son sexe, et il les sentait avec délectation. Sa sueur fleurait aussi frais que le vent de la mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l'huile de noix, son sexe comme un bouquet de lido, sa peau comme les fleurs de l'abricotier. Et l'alliance de toutes ces composantes donnait un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur, que tout ce que Grenouille avait senti jusque-là, en fait de parfum, toutes les constructions olfactives qu'il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d'un seul coup à la pure insignifiance. 100 000 parfums paraissaient sans valeur comparés à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devraient s'ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. Pour Grenouille, il fut clair que, sans la possession de ce parfum, sa vie n'avait plus de sens. Il fallait qu'il le connaisse, jusque dans le plus petit détail, jusque dans la dernière et la plus délicate de ses ramifications. Le souvenir complexe qu'il pourrait en garder ne pouvait suffire. Ce parfum apothéotique, il entendait en laisser l'empreinte comme avec un cachet dans le fouillis de son âme noire, puis l'étudier minutieusement et dès lors se conformer aux structures internes de cette formule magique pour diriger sa pensée, sa vie, son odorat. Il s'avança lentement vers la jeune fille, s'approcha encore, pénétra sous l'auvent et s'immobilisa à un pas d'elle. Elle ne l'entendit pas. Elle était rousse et portait une robe grise sans manches. Ses bras étaient très blancs et ses mains jaunies par les mirabelles qu'elle avait entaillées. Grenouille était penchée au-dessus d'elle et aspirait maintenant son parfum sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque et de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe, et il en absorbait en lui le flot comme une brise douce. Jamais encore il ne s'était senti aussi bien. La jeune fille, en revanche, commençait à avoir froid. Elle ne voyait pas Grenouille, mais elle éprouvait une angoisse, un étrange frisson, comme on ressent lorsqu'on est repris d'une peur ancienne dont on s'était défait. Elle avait l'impression qu'il passait derrière son dos un courant d'air froid, comme si quelqu'un avait poussé une porte donnant sur une cave gigantesque et froide. Et elle posa son couteau de cuisine, croisa ses bras sur sa poitrine et se retourna. Elle fut si pétrifiée de terreur en le voyant, qu'il eut tout le temps de mettre ses mains autour de son cou. Elle ne tenta pas de crier, ne bougea pas, n'eut pas un mouvement pour se défendre. Lui, de son côté, ne la regardait pas. ce visage couvert de taches de rousseur, cette bouche rouge, ses grands yeux d'un vert lumineux. Il ne les voyait pas, car il gardait les yeux soigneusement fermés tandis qu'il l'étranglait, et il n'avait d'autre souci que de ne perdre la moindre parcelle de ce parfum. Quand elle fut morte, il l'étendit sur le sol, au milieu des noyaux de Mirabelle, et lui arracha sa robe. Alors le flot de parfum devint une marée, elle le submergea de son effluve. Il fourra son visage sur sa peau, promena ses narines écarquillées de son ventre à sa poitrine et à son cou, sur son visage et ses cheveux, revint au ventre, descendit jusqu'au sexe sur ses cuisses, le long de ses jambes blanches. Il la renifla intégralement, de la tête aux oreilles. Il collecta les derniers restes de son parfum sur son menton, dans son nombril et dans les plis de ses bras repliés. Lorsqu'il l'eut sentie au point de la faner, il demeura encore un moment accroupi auprès d'elle pour se ressaisir. Car il était plein d'elle à n'en plus pouvoir. Il entendait ne rien renverser de ce parfum. Il fallait d'abord qu'il referme en lui toutes les cloisons étanches. Puis il se leva et souffla la bougie.
c'était Les yeux ont des oreilles sur le thème du désir. Merci à Martin, Maë et Alice, et à bientôt.